L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez ou que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour partager quelques versets bibliques sur le thème la parabole du Samaritain. Et nous avons toujours avec nous Jonathan Junior Mambou. Bonjour frère.
Bonjour et bonjour à vous tous qui venez de nous rejoindre.
Merci pour ta disponibilité, que le Seigneur te bénisse, te rende au centuple.
Amen.
Avant d'aller plus loin, je voudrais t'inviter, Jonathan, à baisser la tête dans la prière pour dédier le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur. Prions.
Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ce temps merveilleux que tu viens de nous accorder. Bénis mon frère, bénis ma sœur, car tu avais dit à Marthe, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. » Que cette chose nécessaire qui est ta parole bénisse tous les auditeurs de cette émission. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen. Luc 10, verset 30. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour ». Mon frère Jonathan, dis-moi, qu'est-ce que le Seigneur t'a mis à cœur pour chacun d'entre nous aujourd'hui sur la parabole, sur cette parabole?
La parabole du Samaritain. Une parabole qui nous parle du Samaritain. On pouvait dire, peut-être Jésus pouvait, en fait l'auteur, pouvait présenter la parabole de l'homme qui a quitté Jérusalem vers Jéricho. On n'a pas présenté les choses ainsi. Les théologiens titrent l'histoire de cette parabole comme étant la parabole du Samaritain. Ainsi, c'est aussi une façon d'attirer notre attention sur le rôle qu'a joué le Samaritain. Parce que cet homme était à demi-mort. Il était à demi-mort pourquoi? Parce qu'il était à Jérusalem qui présente, en fait, qui est l'image de cet homme qui est en communion avec le Seigneur, la maison de paix. Parce que Dieu, Jésus-Christ est lui le prince de la paix. Il était en communion avec le Seigneur, mais il a décidé de quitter Jérusalem et de descendre. Et en descendant vers Jéricho, la ville la plus basse, image de ce monde, eh bien les brigands, image de Satan et de ses démons, l'ont encerclé, l'ont battu, le laissant à demi-mort. Mais le rôle du Samaritain nous enseigne beaucoup. Parce que le sacrificateur et les Lévites n'ont rien fait. Mais le Samaritain a fait quelque chose. Et pour ceux qui ont suivi les émissions passées, se souviendront que Jésus est vraiment le Samaritain. Si les Samaritains ont été considérés comme des étrangers, eh bien Jésus est venu sur terre comme un étranger. Il n'était pas de ce monde, il était du ciel. Mais il est venu pour relever l'homme adamique, chose que les sacrificateurs et les Lévites ne pouvaient faire, chose que Moïse ne pouvait pas faire. Voilà pourquoi Jésus-Christ est plus grand que Moïse, plus grand que tous les hommes qui ont pu exister sur la terre.
Et qui existeront
sur cette. Et qui existeront encore. Il est le seul qui a apporté le salut et qui fait que nous soyons justes devant Dieu à cause de l'huile et du vin. L'huile, c'est l'esprit qu'il donne à l'homme qui s'est éloigné de lui. Quand l'homme s'éloigne de Dieu, Dieu lui envoie l'esprit qui le convainc du péché. Et lorsque l'homme est convaincu, et qu'il revient à Dieu en demandant pardon, en se repentant, en regrettant douloureusement ses erreurs, le Seigneur lui donne le vin, le sang de Jésus. Le vin, c'est le sang de Christ, qui nous enseigne le pardon que Dieu accorde à tout le monde, à tous ceux qui reconnaissent leurs maux, qui reviennent à Dieu. Mais c'est pas tout. Lorsque le Seigneur donne l'huile et le vin, il nous met sur sa monture. Sa monture, fait allusion au fait que lorsque nous venons à Jésus, qu'il nous sanctifie à cause de son sang, par son sang qu'il a versé à la croix, eh bien, il demande à ce que nous montions sur sa monture, c'est-à-dire que nous demeurions dans sa parole, que nous restions enracinés en sa parole, pour ne pas tomber, pour ne pas tergiverser. Il y a toujours des éléments qui peuvent nous faire tomber. Mais le Seigneur ne veut pas que nous puissions tomber. Il veut que nous puissions rester debout. Voilà pourquoi il veut que nous puissions demeurer dans sa parole. Je veux lire un texte. Jean chapitre 15, verset 4. Jean 15, 4 nous dit ceci. Ça, Jésus-Christ a insisté beaucoup sur le fait.
Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Mm-hmm. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Ce texte-là est très important, parce que Jésus reprend plusieurs fois le verbe « demeurer ». S'il faut compter, on pourrait voir que c'est même plus de 4 fois, plus de 5 fois. Le verset 4, « demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Pour dire quoi ? Si nous ne demeurons pas en Jésus, en moi, c'est-à-dire en la parole, parce que Jésus, il est la parole. Si nous ne montons pas en lui, comme il a fait monter cet homme sur sa monture, eh bien le Seigneur ne pourra pas demeurer en nous. Ce sera impossible. Et le Seigneur veut agir dans nos vies. Il veut se manifester dans nos vies et faire des grandes choses. Mais pour cela, nous devons faire notre part. Notre part, c'est de demeurer en lui. Alors, il demeurera en nous. Donc c'est insuffisant. Aller à l'église, c'est pour écouter la parole qui doit nous amener à accepter pire cette parole en nous. Aller à l'église c'est juste un temple. Je parle de l'église comme une bâtisse. C'est juste un temple. Ok, on y va à l'église, mais moi je compare le chrétien comme un véhicule. Un véhicule, il peut se promener, mais à un moment il a besoin d'aller dans une station d'essence pour pouvoir s'approvisionner. Quand le carburant s'épuise, il faudra qu'il retourne encore. C'est en fait ce qu'on fait en allant aussi à l'église. À l'église, on écoute la parole, c'est comme du carburant qui recharge notre véhicule et on continue. On peut ne pas lire la parole de Dieu pendant longtemps, mais après il faut retourner encore au pied de la parole. Lire la parole, méditer la parole. Pourquoi ? Parce que nous voulons que cette parole s'enracine en nous, qu'elle demeure en nous. Alors, le Seigneur demeurera aussi en nous, c'est-à-dire, nous vivrons les merveilles de la parole. Je vais lire encore, je continue, bien que tu la lis. Car le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Donc, il insiste, il veut que celui qui a reçu l'huile et le vin monte sur sa monture, c'est-à-dire qu'il demeure en lui. Parce que si nous ne demeurons pas en la parole, en Jésus, si nous ne persévérons pas à nous attacher à la parole, à chercher à connaître la parole, nous ne porterons pas de fruits. Nous ne porterons pas de fruits. C'est impossible. Pour porter des fruits de la parole, nous devons demeurer en lui. Si nous ne demeurons pas en lui, ce sera un problème pour nous. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi ça peut étonner quelqu'un de dire, mais il est chrétien, mais comment il peut faire ça? Il est chrétien. Hein, comme je suivais quelqu'un qui était un artiste qui chantait pour le Seigneur, et à un bon moment, il a changé pour commencer à chanter pour le monde. Alors, j'ai, oh. dit, mais ça ne doit pas nous étonner.
C'est passé à la télé.
Oui, ça ne doit pas nous étonner. Parce que si cette personne avait choisi de demeurer dans la parole...
Ah d'accord, non, j'ai compris. J'ai cru que tu disais que la personne chantait à la télévision d'abord pour le Seigneur, et pendant qu'il chantait, il a changé de rythme. Ah, il a changé de vie, tu veux dire.
Oui, d'accord. Donc cette personne chantait à la télé pour le Seigneur, et plus tard, il a commencé à chanter pour le monde.
Il a rétrogradé, oui, je comprends.
Voilà, donc Si cette personne avait choisi de demeurer dans la parole, il n'allait pas faire ça.
Tout à fait.
Ça ne doit pas nous étonner parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Mais lorsque nous demeurons dans la parole, c'est impossible. Nous allons rester attachés à lui. Le verset 5, Jean 15, verset 5. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Ça, c'est Jésus. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est une parole qui vient encore nous fortifier. De rester attaché, de monter sur sa monture. De rester attaché à lui. Parce que dans les choses de Dieu, dans l'église de Dieu, on a besoin de l'aide de Dieu.
Parce que sans lui, on ne peut rien.
On ne peut rien. Et dans le dans ce mot-là où il dit rien, donc c'est rien.
C'est tout.
Voilà.
Sans Christ, rien n'est impossible.
On ne peut rien. On ne peut rien. Il ne faut même pas s'entêter pour dire non, c'est possible, on peut faire quelque chose. Non, 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 non.
Et puis, tu sais, Jonathan, lorsqu'on lit les Écritures, on remarque souvent que, si je peux appeler ça dans le cadre de l'identité du chrétien, on dit souvent en Jésus, nous avons. En Jésus, nous possédons. En Jésus, nous sommes. Et en Jésus-Christ, nous pouvons faire.
Voilà.
Donc, sans Jésus-Christ, c'est vrai, on ne peut rien faire. Mm-hmm. On ne peut pas s'approcher de Dieu.
Mm-hmm. C'est impossible.
On ne peut pas prier et être exaucé. On ne peut pas être racheté. On ne peut même pas avoir la victoire face aux démons, face aux ennemis terrestres, face aux ennemis spirituels. Parce qu'en fait, Christ est celui qui nous communique la vie de Dieu.
Amen.
La victoire de Dieu, le succès de Dieu, la restauration de Dieu, la rédemption de Dieu. Sans Christ, on ne peut rien faire ni rien vivre.
Oui, c'est très important que les chrétiens que nous sommes, nous ayons cela à l'esprit. Parce que si on n'a pas ça à l'esprit, on pourrait dire non, je peux. Oui, on a eu la victoire, la gloire doit retourner à Dieu. Voilà pourquoi j'aime bien ce verset. D'Ésaïe 26, si je ne me trompe pas, oui, au verset 13, verset 12, regardez ce que le prophète dit.
Ésaïe 26, verset 12, c'est ça?
Oui. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous.
Amen.
Tout ce que nous faisons, tel que là, ce qu'on est en train de faire, on doit accepter que c'est qui fait ça pour nous? C'est lui.
Tout à fait.
C'est lui qui l'accomplit pour nous, tout ce que nous faisons. Ainsi, je bénis Dieu quand je lis cette attitude des 24 vieillards qui jetaient leur couronne. Ils étaient conscients que c'est vrai, nous avons eu des couronnes. Mais c'est toi qui mérites les couronnes. Parce que c'est toi qui nous as donné la force de venir à toi. C'est toi qui nous as sauvés du mal. C'est toi qui as mis en nous l'amour de t'aimer et de haïr le mal. C'est toi. Mais cela n'exclut pas la part de l'homme. Ça, c'est vrai. Ça ne doit pas pousser l'homme à dire, non, moi, je ne peux rien faire, c'est Dieu qui doit tout faire. Non. Nous avons l'intelligence pour choisir, mais lorsque nous remportons des victoires...
En fait, il nous donne la capacité,
oui.
Il nous donne la force, il nous donne la puissance de faire des choses en son nom. Sans lui, nous n'aurions pas cette force, ni cette puissance, ni cette capacité. C'est l'histoire des mines dans la parabole. Il est dit, à chacun, il est donné un talent en fonction de sa capacité. Donc, ça vient réellement de Dieu. Tu as raison.
C'est très important de demeurer. Dieu veut qu'on demeure en lui. Parce que lorsque nous demeurons en lui, il nous donne des capacités. Il nous aide. Ces hommes comme les Pierre, les Paul, ils ne se glorifiaient pas parce qu'ils savaient que si par nous ces miracles se produisent, des hommes sont sauvés, des malades sont guéris, c'est parce que nous avons choisi de demeurer en lui. Donc que la gloire revienne à lui. Ils n'ont pas voulu qu'on puisse les adorer, qu'on puisse les glorifier comme des hommes extraordinaires, non. Mais ils ont compris juste qu'il fallait s'attacher à Dieu. Et c'était ça leur travail. Ils exhortaient les hommes à s'attacher à Dieu. Attachez-vous à Dieu. Parce qu'ils savaient que c'était ça le secret de la victoire, le secret de la réussite. Et Dieu veut que celui qui avait quitté Jérusalem et qui est descendu à Jéricho, qui maintenant s'est repenti et qui a compris que Dieu lui a pardonné, de demeurer. Il y a un péché qui t'a vaincu. Maintenant que Dieu t'a pardonné, demeure en Dieu. Et plus tu demeureras en Dieu, tu vas vaincre le mal. Tu vas persévérer. Tu vas porter des fruits dignes de notre Dieu. C'est très important. Le verset, chapitre 15, toujours de Jean. Je suis maintenant au verset 6. Il dit ceci, le verset 5, « Je suis le cep. » Là, on l'a déjà lu, il a dit rien. Le verset 6, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté. » Donc, puis on le ramasse, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. C'est important. Si quelqu'un ne demeure pas en Jésus, c'est-à-dire, il n'accepte pas de monter sur la monture de Jésus, c'est-à-dire, sa monture, c'est la parole. Si quelqu'un, il vient à Christ, mais il aime les paroles du monde, il aime les choses du monde, il aime la sagesse du monde, mais il ne demeure pas dans la parole, qu'il sache qu'il sera jeté dehors. Et il finira dans le feu. Ça, c'est vrai. Jésus-Christ s'est référé à un arbre physique. Mais en fait, pour nous expliquer des réalités vraies, des réalités célestes. Parce qu'il y a de ces religions qui disent que l'enfer et le paradis n'existaient pas. Jésus, déjà, dans ce verset que je viens de lire, a parlé de l'enfer pour dire que, mes bien-aimés, si vous ne demeurez pas en moi, en tout cas, vous allez produire des mauvais fruits qui feront que vous serez retranchés et on va vous jeter au feu. Regardez, tu peux regarder ce verset. Il dit clairement, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Dehors, jeté dehors, ça veut dire quoi? Si Christ revient, les vrais serviteurs seront enlevés. C'est-à-dire, les faux chrétiens, ils ne seront pas enlevés. Ils n'entreront pas dans la maison. Ils seront dehors. C'est ça, dehors. Il est jeté dehors. Pour dire que toute personne, tout chrétien qui refuse de monter sur la monture, en tout cas, ce chrétien-là, il va rater l'enlèvement. Il va le rater. Il sera classé dans le... Ça, c'est important. Il dit, comme le sarment. Et il sèche. Pourquoi il sèche? Parce qu'en fait, quand on regarde l'arbre, si l'arbre a sa verdoyance, c'est à cause de la sève.
Qu'il reçoit.
Oui, la sève, c'est un liquide qui fait que l'arbre ait en fait sa fraîcheur, si je peux le dire ainsi. Mais cette sève-là, c'est l'image de la parole. Un chrétien qui est verdoyant aux yeux de Dieu, c'est un chrétien qui reçoit l'eau, qui reçoit la parole. C'est pour ça que Jésus-Christ pouvait dire, si je ne me trompe pas, je crois que c'est dans le livre de Luc, où il disait aux enfants de aux femmes de Jérusalem, « Femmes de Jérusalem, femmes de Jérusalem, pourquoi vous pleurez sur moi ? Pleurez sur vous et pour vos enfants, sur vos enfants. » Parce que si on fait ces choses à l'arbre vert, quand sera-t-il à l'arbre sèche ? C'était ça, non ?
Tout à fait.
L'arbre sec.
Sec.
Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Lui, Jésus, il était l'arbre vert. C'est-à-dire l'arbre qui a la sève. Jésus-Christ a marché, il avait l'eau. Il était verdoyant. Et il donnait aux chrétiens que nous sommes de l'eau. Mais il dit, priez pour vous, ne priez pas pour moi, parce que moi, je suis un arbre vert. Parce que c'est qu'on fait à l'arbre vert que je suis. Mais quand sera-t-il de l'arbre sec ? C'est-à-dire, il voulait juste dire, vous, à vous, les juifs, qui n'avez pas cru en moi. Donc, vous êtes des arbres secs. Hein? Si on me traite comme ça, mais quand sera-t-il de vous qui n'avez pas cru en moi? Parce qu'au fait, pendant la grande tribulation, les juifs vivront des choses. Ils comprendront. Voilà pourquoi la Bible dit, ils vont se lamenter lorsqu'ils verront les yeux. Tous les regards seront tournés vers lui. Ils vont pleurer. Mais pendant la grande tribulation, les juifs seront persécutés. Après l'enlèvement, ils seront persécutés. C'est là qu'ils tourneront les regards vers le roi des rois. Et ainsi que tout homme qui n'a pas la parole, eh bien qu'il le sache, qu'il est un arbre sec. Mais nous les chrétiens, nous ne sommes pas des arbres secs. Nous, nous sommes des arbres verts. Parce que si notre Seigneur est un arbre vert, nous aussi nous sommes des arbres verts. Donc là, ça concernait les juifs parce qu'ils l'avaient vendu.
Luc 23, verset 26, pour lire le texte que tu es en train d'exploiter.
Oui.
Luc 23, verset 26. Mm-hmm. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de porter la croix pour qu'il... Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et des femmes se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Mm-hmm. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Car voici, des jours viendront où l'on dira heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Verset 30. alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on a fait au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec?
C'est très important ce verset. Donc en lisant ce verset, parce que ce n'est pas notre sujet de l'exploiter, nous avons juste voulu dire, c'est en partant de Jean chapitre 15, pour dire que celui qui ne demeure pas dans la parole, c'est-à-dire qui ne s'attache pas à Jésus, il ne recevra pas la sève, il ne recevra pas l'eau qui l'aidera à être verdoyant. Non, c'est impossible. Et quand Jésus-Christ disait ça, il le disait clair.
Clairement.
Clairement. Il a parlé de la grande tribulation. Verset 29. Car voici des jours viendront où l'on dira heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors, ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et collines, couvrez-nous. Ça, c'est un texte que vous retrouverez dans les livres de l'Apocalypse. Apocalypse 6, verset 16. C'est un chapitre qui parle de la grande tribulation, un chapitre qui parle des fléaux que les hommes vont vivre après l'enlèvement. Donc, il le dit pour nous avertir, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'il était Jésus, qu'arrivera-t-il au bois sec? Ne soyons pas des bois secs, c'est-à-dire ne restons pas des païens, mais recevons Jésus pour devenir des bois verts. Que les chrétiens bénissent Dieu, car ils sont des bois verts. Ils ne vivront pas ces choses. Mais que tous ceux qui ont rejeté Christ, comme l'ont fait les Juifs, qu'ils sachent qu'ils sont des bois secs. Ils n'ont pas la sève, c'est-à-dire ils n'ont pas la parole. Regardez, je retourne dans Jean 15. Puis on ramasse les sarments. Je suis au verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. C'est-à-dire il rate l'enlèvement et il sèche parce qu'il n'a pas la sève. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Le feu qui brûle, c'est l'enfer. L'enfer n'est pas un endroit agréable. Voilà pourquoi nous devons rester à Jérusalem. Et pour ceux qui s'étaient retirés de Jérusalem et qui ont choisi le péché, qui maintenant se sont repentis, Dieu leur demande de monter sur la monture, de demeurer dans la parole. C'est très important. Le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Encore là. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que les gens, ils vont dans les églises, ils prient. Mais Dieu n'écoute pas la prière de tout le monde. Non! C'est vrai! On peut dire, non, on a prié, mais est-ce que Dieu a écouté ta prière? Parce que Caïn et Abel, ils sont allés, ils ont offert aussi des sacrifices. Dieu a agréé les sacrifices d'Abel.
Tout à fait.
Mais il n'a pas agréé les sacrifices de Caïn.
Ni lui, ni son offrande, nous dit les Écritures. Disons-le pour qu'on soit un peu plus précis.
Pendant que tu cherches, ça c'est important de comprendre ces choses. Pendant que tu cherches, je vais lire ce verset de Proverbe 28 qui appuie ce que je dis au verset 4. On dit ceux qui... Non, c'est pas le verset que...
J'ai par contre trouvé Genèse 4, verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu.
L'Éternel ne porta pas un regard sur Caïn et sur son offrande. C'est-à-dire Caïn avait amené son offrande, mais Dieu a d'abord regardé Caïn, puis son offrande. Le verset que je voulais lire qui appuie ce texte, c'est Proverbe 28 au verset 9. Il est dit ceci. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, c'est-à-dire la parole, sa prière même est une abomination. Une abomination. Tu es voleur, tu viens prier, ta prière est une abomination. Tu aimes les péchés comme l'argent, en tout cas, ta prière est une abomination. Tu aimes le péché comme un habit, ta prière c'est une abomination.
Tu as volé de l'argent et puis tu viens payer ta dîme à l'église. Cette offrande-là, cette offrande et ta prière, C'est une abomination.
C'est très important. C'est très important qu'on sache ces choses. Sinon, on risque de perdre beaucoup de temps pour rien. Non, je prie, mais tu perds le temps parce que tu ne demeures pas dans la parole. Tu n'acceptes pas de monter sur la monture.
Je suis même tenté de dire que de ton péché, tu t'ajoutes toi-même encore des malédictions sur malédictions, malédictions sur malédictions, parce qu'en fait, tu te moques, tu es en train de te moquer de Dieu.
Il faut savoir séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Si tu ne sépares pas ce qui est précieux de ce qui est vil, ta prière est une abomination.
Mon frère, ma sœur, vous qui êtes en train de nous écouter en ce moment, Dieu est en train de nous dire, c'est Dieu qui parle. Au-delà des deux personnes, au-delà de la personne de Jonathan que vous avez écouté, c'est Dieu qui parle. Demeurons dans la parole de Dieu. Ne nous laissons pas distraire par les choses du monde. Ne nous laissons pas distraire par même la religion. Non, la religion ne sauve pas. Du reste, les hommes définissent la religion comme étant l'effort de l'homme vers Dieu. Dans le jardin d'Éden, l'effort que l'homme a fait face à Dieu était de fuir. C'est ça la religion. La religion cherche un moyen de fuir face à Dieu. Mais Christ est venu nous réconcilier avec Dieu. Mon frère, ma sœur, demeurons dans la parole de Dieu. Il veut que nous demeurions. Jonathan l'a si bien dit. Si vous demeurez en Christ, vous portez des fruits en grande quantité. Jésus l'a dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ne cherchez pas la religion. Ne cherchez pas l'argent. Ne cherchez pas le péché. Mais cherchez Christ. Demeurez avec Christ tous les jours de votre vie et dans tous les domaines de votre vie. Si c'est cela votre prière, je vous invite simplement à baisser la tête dans la prière et de répéter ces simples mots après moi. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous voici devant toi, me voici devant toi. J'ouvre les portes de mon cœur à Jésus-Christ. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis rebelle. Je reconnais que je suis un fils de la colère. Et je te demande pardon. Purifie-moi avec le sang de Jésus-Christ. Lave-moi avec le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu es mon sauveur et mon Seigneur personnel à partir d'aujourd'hui. Et je te suivrai tous les jours de ma vie et je demeurerai tous les jours de ma vie face à la parole. Je serai ferme et je pratiquerai la parole de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, Dieu vous a entendu. Je suis Raphaël Mambou, le nom de cette émission est Venez à Jésus. Nous nous retrouvons la fois prochaine, toujours sur le même thème, la parabole du Samaritain. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. Nous nous retrouvons la fois prochaine sur cette parabole avec Jonathan Junior Mambou. Au revoir.
Que Dieu vous bénisse.
L'émission Venez à Jésus vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au plus 243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.